Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian s'est rendu ce lundi en Libye pour pousser à la mise en œuvre de l'accord de Paris qui prévoit des élections en décembre dans ce pays en proie au chaos. Le ministre français a rencontré Fayez Al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union nationale, le GNA, seul exécutif reconnu par la communauté internationale, en début de matinée à Tripoli avant une série d'entretiens avec différents acteurs politiques. 7 ans après la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye reste à la dérive avec 2 autorités politiques rivales, le GNA à Tripoli et une basée dans l'Est soutenue par le maréchal Khalifa Haftar. L'économie du pays est chancelante malgré de grandes richesses pétrolières. 8 personnes ont été tuées par un kamikaze qui s'est fait exploser ce matin dans une mosquée du nord-est du Nigeria. L'explosion s'est produite dans le quartier Menari à Kunduga, dans l'état du Borno, a indiqué Ibrahim Liban, membre de la milice civile qui assiste les forces de l'ordre dans leur lutte contre les militants djihadistes de Boko Haram, très actifs dans cette région. Les attentats suicides contre des cibles civiles sont généralement la marque de la faction historique de Boko Haram, dirigé par Aboubakar Shekau, selon les autorités nigérianes. Au Tchad, le gouvernement dénonce le rapport d'Amnesty International intitulé « Budget en chute, répression en hausse, le coût humain des mesures d'austérité au Tchad » publié le 16 juillet dernier. N'Djamena constate avec regret que les contributions des autorités officielles n'ont pas été prises en compte. La ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Alice Ndolenji Nabaï, accuse l'ONG de ternir l'image du Tchad au niveau mondial.
Dans ce rapport, Amnesty International parle avec inconscience et légèreté de violation des droits de l'homme, de détérioration des droits à la santé et à l'éducation, en passant par le manque des libertés fondamentales, notamment des libertés d'expression, syndicales, d'association, d'interdiction de manifestations à caractère pacifique et autres. Les méthodes de sondage contestables employées par Amnesty International pour parvenir à noircir le tableau. Le résultat en est que le rapport d'Amnesty International s'attarde seulement sur des informations et des données présentant une situation peu reluisante du Tchad, tout en occultant sciemment les efforts soutenus consentis par le gouvernement tchadien concernant le mieux-être de ses concitoyens.
Alex Ndolenji Nambaï, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien. Propos recueillis à N'Djamena par André Kodmajinga. Au Cameroun, 28 candidatures ont été enregistrées pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Outre le président sortant Paul Biya, quelques figures de proue de l'opposition, 6 candidats indépendants et 2 femmes ont déposé leur dossier auprès d'Élections Cameroun, l'organe chargé d'organiser les scrutins. Notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jolentap, a recueilli les premières déclarations de certains candidats.
Investi par le parti Univers, Cabral Libi, 38 ans, se présente comme le candidat du peuple qu'il a soutenu pour payer sa caution de candidature à l'élection présidentielle.
Je suis heureux d'avoir été choisi par ces Camerounais qui, à plus de 20 000, ont cotisé leurs 1 000 francs, leurs 500, 500, leurs 5 000, 10 000. J'ai jamais méprisé le peuple parce que je suis du peuple et je sais quelle est la puissance qui est la nôtre si nous avons la volonté.
Dans un contexte de crise anglophone, le candidat anglophone Akeremouna appelle les Camerounais a opté pour le changement.
Je suis fermement convaincu que le changement que nous recherchons se fera au moyen du bulletin de vote et non de la balle et sauver notre pays. Notre pays souffre énormément. Pourtant, on nous dit que nous sommes un indivisible.
Troisième à l'issue de l'élection présidentielle de 2011, Garga Haman Hadji revient à la course cette année encore pour, dit-il, redresser le Cameroun.
Parce qu'il y a les pillages des biens publics, des détournements des deniers publics énormes, une indiscipline généralisée, sans tenir compte de quelque hiérarchie que ce soit. Ce pays a besoin d'être remis sur une bonne voie et je me sens capable de le faire.
Dans la course aussi, 2 femmes, parmi lesquelles la présidente de l'UPC. Sa formation est cependant divisée sur 7 candidatures. Habiba Issa, candidate de l'UPC.
Nous sommes dans un parti qui a une démocratie inouïe. Je ne dirai pas pourquoi, de l'autre côté, ils supportent la candidature du président de la République. Je vais aller aux élections. C'est le comité directeur qui décide de la ligne à suivre du parti. Et je suis déterminée pour ma candidature parce que mon parti en a besoin.
Pour la société civile camerounaise, 27 candidatures déposées sont issues de l'opposition, ce qui plombe l'idée d'un candidat unique, Hilaire Kamga, coordonnateur de l'offre Orange.
Je ne crois pas avoir, avec les orangistes, choisi la meilleure option. Peut-être qu'on s'est trompé, mais on assume le fait qu'on se soit trompé de dire à Kamto et à Téré de pouvoir convoquer ces assises. Maintenant, on va nous dire peut-être que le lendemain, avant octobre, il y aura des coalitions. C'est ce sur quoi je suis péremptoire. Il n'y aura rien du tout dans le sens des intérêts.
C'est le 8 août prochain que Election Cameroun rendra public la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Fin ce dimanche de la visite d'État du président chinois Xi Jinping au Sénégal, un déplacement marqué par un tête-à-tête avec son hôte Macky Sall ainsi que la signature de plusieurs accords bilatéraux à Dakar. L'envoyé spécial de VOA Afrique, Jacques Aristide.
Pour Seydi Gassama, directeur d'Amnesty Sénégal, c'était une opportunité pour le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, de faire passer le message, notamment sur la crise des Rohingyas au Myanmar. Dans une déclaration à VOA Afrique, M. Gassama affirme que la Chine, qui a le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, bloque toute tentative de résolution pour condamner les attaques. En revanche, ce sont les liens économiques sino-sénégalais qui ont polarisé la tension avant son départ. Hier, Xi Jinping a inauguré l'arène nationale de Pékin, une infrastructure dédiée notamment à la très populaire lutte traditionnelle au Sénégal, financée par la Chine à hauteur de 32 milliards de francs CFA. Macky Sall s'est réjoui de la coopération entre les deux pays.
Depuis le rétablissement de nos relations diplomatiques en 2005, les financements accordés par la Chine au Sénégal s'élèvent à plus de 1206 milliards de francs CFA, soit plus de 14 milliards de yuan. Et sur ce montant total, 963 milliards de francs CFA ont été mobilisés entre 2012 et 2018, ce qui représente plus de 80% de ces financements.
Une série d'accords touchant les domaines de la justice, des infrastructures et de l'aviation civile ont été paraphés. Xi Jinping s'est prononcé pour une évolution forte du partenariat entre Dakar et Pékin. Après l'étape sénégalaise, la première de son périple africain, le président chinois mit le cap ce dimanche sur le Rwanda et se rendra ensuite à Johannesburg pour prendre part au sommet des BRIC, bloc qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Une escale à l'île Maurice est également prévu. Jacques Aristide, VOA Afrique, Dakar, Sénégal.
Les autorités de Damas ont dénoncé aujourd'hui une opération criminelle après l'évacuation par Israël de centaines de secouristes des casques blancs et leurs familles qui se trouvaient dans le sud de la Syrie, a rapporté l'agence officielle Sana. Plus de 400 casques blancs, secouristes volontaires dans les zones rebelles en Syrie et membres de leurs familles ont été évacués dans la nuit par Israël vers la Jordanie alors qu'ils semblaient pris au piège face à l'offensive du régime dans le sud syrien. Le président américain Donald Trump a lancé une mise en garde d'une rare virulence contre l'Iran qu'il a menacé de représailles apocalyptiques après des propos guerriers de son homologue iranien Hassan Rouhani. M. Rouhani s'exprimait lui-même quelques heures avant un discours très attendu du secrétaire d'État américain Mike Pompeo à la diaspora iranienne. Les États-Unis n'ont pas peur de sanctionner au plus haut niveau le régime de Téhéran, qui est un cauchemar pour le peuple iranien, a martelé M. Pompeo. Une fusillade a fait 2 morts, dont le tireur solitaire présumé abattu par la police et 13 blessés dimanche soir à Toronto, la métropole économique du Canada. La fusillade a éclaté en fin de soirée, sémant le chaos dans le très animé quartier grec de Toronto, des témoins affirmant que plus d'une vingtaine de coups de feu ont été tirés. Le tireur a perdu la vie à la suite d'un échange de coups de feu avec la police. Et puis l'attentat suicide qui a visé dimanche à Kaboul le général Abdul Rachid Dostum, chef de guerre et vice-président de retour d'exil, a fait au moins 23 morts et 107 blessés selon un nouveau bilan du ministère afghan de l'Intérieur. L'attaque a été revendiquée par les djihadistes du groupe État islamique. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.